Musique Trad, une émission réinventée par Mathilde Lacaze. Une émission qui reçoit les artistes demandeurs de partager à Présence Figeac leur savoir et leur musique pendant une crise sanitaire inédite.
Chers auditeurs et auditrices de Radio Présence, bonjour. Aujourd'hui, je suis encore à Paris, chez, cette fois-ci, Corentin Boiseau-Blaise. Bonjour Corentin.
Bonjour Mathilde.
Merci de m'accueillir à Pantin, exactement, au sixième étage sans ascenseur.
Exactement. Hein.
Et là, dans son petit appartement, nous avons une chaise, une planche pour les pieds, il vous expliquera, un violon, et tout de suite, il va vous jouer
Le Ril en Vielle.
Thank you. merci beaucoup. Merci. Donc, chers auditeurs, nous avons ici Corentin qui joue en direct et qui est essoufflé comme s'il venait de courir un 400 mètres.
Oui, ça donne chaud.
Puis vous avez parcouru quelques kilomètres parce que, bon, certes, là, vous nous avez joué du violon, mais vous avez aussi joué de la podorythmie. Alors, je vous laisse expliquer tout ça à nos auditeurs.
J'ai tapé du pied. La podorythmie, c'est un mot qui a été inventé par les Québécois il n'y a pas si longtemps. Et en fait, c'est l'action de taper du pied quand on joue du violon. Donc, de la podorythmie, il y en a partout. Alors, moi, je connais particulièrement celle du Québec, parce que c'est là-bas que j'ai appris le violon traditionnel et que du coup je me suis inspiré beaucoup de ces musiques-là, aussi bien de la musique du violon que de la musique des pieds finalement.
Alors juste pour être un peu précise, vous dites c'est le fait de taper du pied quand on joue du violon, mais ça peut être d'un autre instrument aussi.
Ouais, tout
ou
à
est-ce
fait.
Que c'est spécifique au violon?
Non, c'est le fait de taper du pied quand on a une pratique musicale qui ne concerne pas les pieds, si je puis m'exprimer ainsi, quoi.
D'accord.
Qu'on chante, qu'on joue du violon, de l'accordéon, du piano, c'est moins vrai forcément, puisque sans doute on s'occupe des pédales, mais en tout cas, il y a plein de possibilités. Tant qu'on n'occupe pas ses pieds pour l'instrument, on peut accompagner ce qu'on fait avec l'instrument, avec ses pieds.
Donc en Occitanie, où cette émission est diffusée, on pourrait appeler podorythmie tout ce qui fait de taper du pied pour jouer une ronde du Quercy ou une bourrée, etc. Et effectivement, est-ce que ce terme est apparu plutôt au Québec?
Je crois, ouais, mais c'est toujours pareil, on ne sait jamais qui a inventé quoi. Moi, je pense que... En tout cas, j'ai vu que maintenant, ça commence à se démocratiser. J'ai entendu des collègues de musique traditionnelle française utiliser ce terme-là pour parler de leur frappe de pied, finalement. Mais je pense que ça existait, ça existe partout. Et puis que, probablement au Québec, ils ont trouvé ce terme-là. J'ai l'impression que c'est aussi parce que, sans doute, qu'on leur a beaucoup demandé « Ah, mais c'est quoi que vous faites avec vos pieds ?» Et que leur réponse était « Bah, on tape du pied ». Et que c'est sans doute pas suffisant pour l'auditeur curieux. Il dit non, mais bien sûr, vous tapez du pied, mais qu'est-ce que c'est, comment ça s'appelle? Donc ils ont fini par trouver un nom qui est presque scientifique, quoi, la podorythmie.
C'est vrai que je dirais que en regardant des joueurs de québécois jouer de la musique, on a vraiment l'impression, parce que là vous tapez des deux pieds et on a presque l'impression que vous marchez sur place. C'est peut-être ça qui est assez impressionnant, c'est qu'on se demande vraiment qu'est-ce qui est fait avec les pieds, puisque c'est moins discret, je dirais, que dans certaines musiques peut-être.
Ouais, et puis souvent on nous dit, ça m'est arrivé qu'on me dise, vous dansez assis.
C'est beau.
Comme ça, voilà, c'est beau. En fait, c'est plus proche de la course à pied que de la danse. Hein. Comme vous dites, c'est vrai que c'est très. On alterne droite-gauche. Tout le monde ne frappe pas du pied tout le débit, si je puis dire. Parfois, il y en a qui frappent que tap, 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 tap. C'est comme une évolution, le fait de faire tap, 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 tap. Mais ça, c'est pareil, c'est propre à chacun. Il y a des gens qui tapent juste avec la pointe des pieds, d'autres en alternant talon-pointe, ou en faisant des flats avec le talon puis la pointe du pied. C'est, finalement, quand on se plonge là-dedans, on découvre à quel point on connaît rien.
Et alors justement, on en parlait hors antenne, c'est que je vais vous demander de vous plonger là-dedans. Parce que là, c'était un petit teaser pour les auditeurs. J'ai demandé à Corentin de bien vouloir nous faire une émission spécifique sur la podorythmie.
Ouais.
Voilà, est-ce que vous êtes d'accord?
Oui, je suis d'accord. Et puis surtout, ce qui m'intéresse, c'est justement, on en parlait hors antenne, de faire le lien entre ce qui a peut-être eu plus bonne publicité au Québec, mais qui finalement parle à toutes les musiques populaires. Il y a toujours eu des gens qui tapaient du pied en jouant leur musique, et ça, je trouve le lien est cool à faire, quoi, et de voir tout ce qui est possible.
Très bien, alors on vous laisse rechercher un petit peu.
Ouais, j'ai des recherches à faire. Et,
chers auditeurs, surtout n'oubliez pas, vous allez voir, on va vous concocter une petite émission sur la podorythmie avec Corentin. Alors Corentin, vous avez dit que vous avez découvert la musique traditionnelle au Québec. Moi, j'ai appris tout à l'heure que vous n'étiez pas que violoniste. Comment êtes-vous rentré dans la musique, alors, en fait?
Dans la musique, c'était il y a longtemps, mais je sais pas si on passe directement au chapitre musique trad ou si on fait tout.
Allez-y, parce que okay. De toute façon, vous êtes arrivé à la musique traditionnelle en ayant d'autres bagages.
Alors, c'est une histoire un petit peu sinueuse, mais au final, qui aurait pu sans doute être peut-être plus directe, mais j'ai commencé la musique quand j'avais 8 ans, je crois, quelque chose comme ça, par le violon. J'ai fait tout de suite du violon. J'aime bien raconter cette petite histoire qui donne qui met en lumière un petit peu la poésie de l'enfant, quoi. Moi, je voulais faire du violon parce que mon cousin, avec qui je m'entendais très bien, il avait commencé à faire du violon. Je crois qu'il en a fait 2 ans, lui. Mais en gros, un été, il vient avec son violon et puis ses parents le tannent pour lui dire « Allez, Hugo, faut que tu travailles ton violon. » Donc, sors ton violon, puis tous les cousins sont autour et moi, je suis autour. Et puis, je vois cette boîte magique avec à l'intérieur de la boîte une autre petite boîte pour ranger la colophane, la cordeur, des trucs comme ça. Et ce côté petite boîte à trésors, ça m'a, dans mon esprit d'enfant de je sais pas, 7-8 ans, ça m'a vachement touché, quoi. Et je suis rentré en disant, moi je veux faire du violon. Alors je suis né dans une famille de musiciens, d'artistes, donc c'était une question de temps pour commencer la musique, mais le fait que je dise, ouais, c'est ça que je veux faire, ça a été plus facile pour mes parents. Ils ont dit, ok, tu vas faire ça.
Très bien, on va t'en prendre un, ouais, voilà. C'est fait.
Donc c'est ça, c'est pour ça que je commençais le violon, c'est parce qu'il y a des petites boîtes à l'intérieur des boîtes pour ranger les secrets, les trucs.
Et le violon, c'est une boîte, et on voit à peine à l'intérieur.
C'est vrai, tout à fait.
Et à l'intérieur, le petit bois qu'il y a, c'est une âme.
Ouais, carrément.
Ouais, c'est une boîte à trésors. Ouais. Très bien.
Donc voilà, j'ai commencé la musique par là, et puis après, bon, je vais essayer d'accélérer un petit peu parce que sinon ça va être long. Mais
on a le temps.
Non, par contre, ce qui est intéressant, c'est que donc j'ai fait du violon classique. Je suis allé au conservatoire ici à Paris. J'ai fait mes classes, solfège, chorale. Je peux pas dire du mal du cursus classique. J'en suis un pur produit, et puis surtout, j'en ai pas souffert.
Oui, vraiment. C'est très bien, alors parlez-nous-en.
Par chance, je pense. Je crois que.
J'aimais ça.
Je sais pas si j'aimais ça, par contre, ce qui est sûr, c'est que j'avais un peu des facilités. Je pense, étant né dans une famille d'artistes, j'ai toujours entendu de la musique. Donc, du coup, c'était pas la corvée d'aller au conservatoire. Le violon classique, en revanche, les cours de violon, c'était une corvée, c'était très compliqué. Physiquement, c'est un instrument très dur, le violon. Je me souviens
que. Ça fait mal aux mains, hein.
Ça fait mal aux mains, ça fait mal au dos, aux épaules. Ouais, c'était vraiment. Moi, j'ai vraiment un souvenir traumatisant de cette époque-là. Ça, c'est pas du tout des bons souvenirs, mais c'est ce qui m'a fait commencer la musique. Et après, j'ai un peu touché à tout. J'ai fait. Alors, il faut que j'explique un peu, parce que en fait, je suis dans une famille d'artistes. Mes grands-parents en maternelle avaient une compagnie de danse populaire, de danse traditionnelle. C'était une compagnie de folklore. Et ma mère a grandi là-dedans et donc est devenue danseuse. Mon père a rencontré ma mère dans cette compagnie. Il est venu jouer de la flûte pour le spectacle de la compagnie de danse populaire française, donc je suis né là-dedans, quoi. En gros,
le musicien et la danseuse, voilà, qui se rencontrent.
Ouais, c'est ça. Donc finalement, j'avais quand même ça dans les oreilles. La seule musique qui passait à la maison, c'était de la musique traditionnelle.
Donc vous étiez déjà habitué, c'était pas.
Ouais, familier, mais c'était pas du tout une pratique pour moi. C'était quelque chose que je connaissais. J'ai vu des danseurs donc depuis tout petit sur scène. Mais par exemple, j'ai vu des danseurs tout petit sur scène, mais j'avais pas vu de bal.
Des spectacles.
Pour moi, c'était des spectacles, c'était quelque chose de spectaculaire. Et puis, voilà. Enfin, bref, les CD, tout ça, la musique. J'avais des CD du Conservatoire Occitan, particulièrement un CD, les cornemuses du Conservatoire Occitan. Donc, il y avait de la boue qui passait. Et je me souviens que je me collais les oreilles à l'enceinte. Ça, c'est une histoire que mes parents adorent raconter. C'est drôle. Les parents racontent plein d'histoires quand on est genre ado, jeune adulte. Ils racontent ça aux voisins, tout ça. Puis on se retrouve à les raconter à la radio, finalement, quand on est adulte. En tout cas, c'est ça. Mon environnement musical, c'était ça. Du coup, peut-être c'est pour ça qu'en classique, ça marchait pas super. Je sais pas trop. Bref, c'était pour arriver au fait que j'ai fait du violon, puis après, j'ai fait de la cornemuse écossaise.
D'accord, ah oui.
Parce que les cornemuses, parce que la boue
au conservatoire occitan.
Ouais, mais en fait, j'ai fait de la cornemuse écossaise, alors que sans doute ce que j'avais plus en tête, c'était de la boue. Enfin, je sais pas trop. Et puis j'étais parisien, et puis mes parents avaient beau être quand même un petit peu connaisseurs de ces musiques-là. Quand j'ai dit que je voulais faire de la cornemuse, c'était plutôt la cornemuse de Bretagne, puisque j'écoutais aussi de la musique bretonne. Tout ça, c'était mélangé.
Je suis quand même ravie de savoir que le conservatoire occitan vous a inspiré.
Ben ouais, il a inspiré ma mère surtout, je pense. Pierre Corbefin, ma mère a fait des stages avec lui, puis Puis je pense que ouais, ma mère, c'était un répertoire particulièrement qui la touchait, musical et surtout sur la danse, puisqu'elle est danseuse, en plus d'être musicienne, mais sur son métier, c'était surtout d'être danseuse. Donc ouais, je pense que j'étais touché par la Gascogne en particulier, même si finalement je me retrouve à faire de la cornemuse écossaise. Je passe mon bac en jouant de la cornemuse écossaise à l'épreuve d'option musique du bac. Je salue le baguette Kerry's, qui est le baguette de Clichy, avec lequel j'ai fait mes classes de jeune sonneur. Voilà, aujourd'hui je fais plus de cornemuse.
Le sonneur, c'est celui qui sonne. Mais la cornemuse écossaise, c'est un instrument très particulier parce que on peut pas le répéter partout.
Ah ouais.
C'est vraiment un instrument qui envahit l'espace au niveau acoustique. C'est un instrument qui est fait pour être dehors, ouais. Et puis qui est difficile aussi physiquement, non? Parce que le cou, ça peut faire gonfler.
Honnêtement, j'ai pas trop de souvenirs de. Je me souviens que c'était très physique, mais que c'était une question d'habitude, un peu d'entraînement. Que finalement c'était très dur au début, mais que rapidement c'était mon instrument, donc ça marchait. Puis contrairement au violon, que je me suis retrouvé un peu obligé de travailler parce que c'était l'instrument que j'avais choisi et tout ça. La cornemuse, c'est moi qui l'avais choisi vraiment après études de marché, si je puis dire.
Oui.
Le violon, j'étais un peu jeune et j'avais choisi parce que il y avait une petite boîte sympa. Enfin bref,
oui.
La cornemuse, c'était différent. Et en parallèle de ça, j'ai fait de la batterie aussi. J'ai commencé la batterie à 15 ans, genre. Et la batterie, ça a été pareil, un choix très fort et une espèce de révélation de ok, j'étais aussi plus en phase avec mon environnement social que en écoutant la musique traditionnelle et en faisant la musique traditionnelle. J'étais à Paris dans mon lycée. Je racontais pas trop ça à mes copains, quoi.
Alors je vous rassure, moi j'étais dans le Lot à Figeac, d'où est donc Radio Présence pour cette émission, et je racontais pas non plus que je faisais de la musique traditionnelle parce que c'était teinté vieux entre guillemets. Et aujourd'hui j'espère que nos auditeurs apprécient de voir qu'il y a beaucoup de jeunes qui en font et que finalement c'est très dynamique. Mais effectivement c'était sympa, mais on le racontait pas trop. Alors justement, vous m'aviez sorti un CD. On va écouter un morceau.
Ouais.
Donc du coup, un morceau de vous à la batterie avec. Alors présentez-nous les deux autres musiciens.
Alors c'est le groupe avec lequel je suis devenu professionnel de la musique, où j'étais donc en tant que batteur. Ça s'appelle Inglenook. On va écouter L'Impertinent. Et c'est un groupe que j'ai monté avec Agathe Perra et Alban Meyer. Agathe Perra qui se chargeait de c'est surtout elle qui l'a monté puisque c'était ses compositions et ses textes. Donc voilà, c'est un groupe dont je voulais parler aujourd'hui parce que ça fait vraiment partie de mon parcours professionnel de musicien.
lèvres ce petit impertinent, ce petit inconvenant. Il s'est invité sans crier gare, gare à toi si tu me cherches, tu trouveras la bagarre.
Donc c'était l'impertinent du groupe
Inglenook.
Inglenook avec Corentin Boiseau-Blaise à la batterie cette fois-ci.
Exactement.
Alors quel a été votre parcours de batteur?
Du coup j'ai commencé la batterie genre à 15 ans, assez rapidement après j'ai arrêté le violon, à 18 ans j'ai dit c'est bon, ça m'a saoulé le violon, je veux faire de la musique
de jeune
quoi. Et du coup j'ai fait une école de jazz après le lycée. L'American School of Modern Music ici à Paris et en batterie.
D'accord.
En batterie, du coup j'ai aussi appris la direction, la composition, l'arrangement, donc un gros parcours théorique que j'avais déjà bien avancé au conservatoire classique, donc j'avais un gros bagage théorique quoi.
Là ça fait un énorme bagage théorique parce que ça fait le conservatoire en classique plus une école en jazz.
C'est ça, ouais.
C'est fantastique d'avoir tout ça, ça fait beaucoup d'outils en fait.
Ouais, et finalement oui et non. Quand finalement on va se retrouver à parler un peu des musiques trad et tout ça, de ce qui les anime, ça m'a un peu desservi d'avoir autant de bagages théoriques et autant de rapports par exemple au texte, à l'écrit, à la partition, particulièrement quand on sort du conservatoire classique. Les musiciens classiques vous le diront, bien souvent ils sont incapables de jouer sans partition. Ou en tout cas ils connaissent des œuvres par cœur, mais ils sont incapables d'improviser ou de jouer beaucoup de répertoire et puis d'apprendre à l'oreille aussi, c'est quelque chose qui leur pose pas mal de problèmes.
Mais c'est un second outil.
De toute manière c'est des outils et je pense que dans l'idéal on faut tous les avoir. Mais moi quand je suis revenu aux musiques traditionnelles, c'est quelque chose où je me suis dit ok, il y a des gens que j'admire qui n'ont pas un quart de mon savoir théorique, donc ça se questionne quoi. Mmh. En tout cas ça m'a interpellé. Mais donc voilà, ouais, école de jazz, batterie, et puis du coup j'ai commencé à accompagner des projets en tant que batteur, j'en ai eu pas mal. Inglenook, c'est un des phares, mais j'ai aussi accompagné Virgule, qui est un groupe de chansons rock avec des super textes, c'était vraiment une super aventure humaine. J'accompagnais aussi Cécile Brooks avec la même section rythmique que dans Virgule, mais au service d'une autre chanteuse. Il y a eu pas mal de projets
comme ça.
J'ai commencé ma vie professionnelle
en tant que batteur.
Et puis il n'y avait pas tellement d'autres perspectives. A priori, c'était ça mon chemin tout tracé, quoi.
D'accord, et alors on va mettre 3 points de suspension.
Ouais, c'est
marrant. Merci beaucoup Corentin pour toutes ces informations aujourd'hui. Je vous propose de revenir à votre 6e étage la prochaine fois pour une autre émission.
Ouais.
Merci beaucoup.
Mais de rien, à bientôt.
Musique Trad, une émission réinventée par Mathilde Lacaze. Une émission qui reçoit les artistes demandeurs de partager à Présence Figeac leur savoir et leur musique pendant une crise sanitaire inédite.